de l'aventure franciscaine à ses débuts. Elles sont précieuses, et celle-là compte, car elle annonce la venue d'une des âmes les plus purement fidèles à l'esprit du fondateur. Gilles se rendit d'abord à l'église Saint-Georges dont on célébrait la fête, puis il prit le chemin de la Portioncule et rencontra près de Rivotorto François qui sortait d'un bois. Sans se lancer dans des explications, Gilles se mit à genoux et présenta sa requête. Il y eut alors entre ces deux hommes un de ces coups de foudre spirituels qui allaient être si fréquents dans l'histoire de l'ordre. Voir clair dans le cœur du nouveau venu était facile. François l'accueillit joyeusement, le releva et lui fit un petit discours. « Ah, mon cher frère, dit-il, si, venant à Assise pour y choisir un chevalier ou un chambellan, l'empereur jetait les yeux sur toi, comme tu pourrais être fier. Or, c'est Dieu lui-même qui t'invite à sa cour en t'appelant à le servir dans notre petite milice. » Et le prenant par la main, il le présenta à ses compagnons. « Voici un bon frère que Dieu nous envoie. Mettons-nous à table et mangeons pour fêter son arrivée. » Étant donné l'état de pauvreté absolue dans lequel il vivait, on peut croire à la frugalité du festin. Mais le style seigneurial de l'accueil nous rend dans un éclair le François de jadis à ses grandes et belles façons. Ce même jour, il emmena Gilles à Assise pour lui trouver de quoi se faire un habit. De quelle couleur ? Les documents de l'époque parlent d'une étoffe grise, comme celle que portaient les lépreux, mais cette couleur faisait fuir. Le brun lui fut préféré, et les franciscains s'habillèrent plus tard à peu près comme ces moineaux que nous aimons tous. La tunique de François, que l'on conserve dans l'église inférieure d'Assise, est d'un brun qui tourne au noir. Quoi qu'il en soit, ils rencontrèrent en chemin une pauvresse qui demandait la charité. « Donne-lui ton manteau, » dit François à son néophyte. Avec quelle joie il fut sur le champ obéi. Gilles révéla par la suite qu'il crut voir le manteau s'envoler au ciel avec lui. Quelques jours plus tard, les frères se séparèrent pour aller deux par deux prêcher dans toute l'Italie. François emmena Gilles comme compagnon dans la marche d'Ancône. Exultant de joie, il chantait à plein gosier. En chemin, François faisait des prédictions sur l'avenir et sur l'énorme quantité de poissons qu'il prendrait dans sa nasse. Gilles, qui savait bien qu'en tout les poissons n'étaient qu'au nombre de six, écoutait dans un émerveillement silencieux. Parfois, François s'arrêtait pour parler sur les places, dans les villes et dans les bourgades, exhortant ses auditeurs à la pénitence. Gilles, qui se tenait près de lui, guettait le moment propice comme un compère et disait alors « Fort bien dit, vous pouvez l'en croire !» Devant une ingénuité aussi limpide, on reste muet. On croirait, on voudrait croire que les gens étaient sensibles à ces sermons improvisés, ressemblant si peu à des sermons. De ce XIIIe siècle si loin de nous, il nous en arrive un écho qui nous touche encore. Pas le moins du monde ému, les passants se montraient surpris et parfois hostiles. Qui étaient ces deux hommes en guenille ? Les avis étaient cependant partagés. Quelques-uns se doutaient qu'il y avait là-dedans du mystère et de la vraie religion, mais beaucoup les prenaient pour des fous, et les demoiselles s'enfuyaient, craignant que leur folie ne fût contagieuse. Elles ne l'étaient pas encore. Personne ne songeait à les suivre. Enfin, leur tournée accomplie, François désira revoir tous ses frères, et ne sachant comment les toucher, il prie à Dieu de les rassembler, lui qui avait réuni les enfants dispersés d'Israël. Avec Gilles, il revint alors à la Portioncule, et tout étonné, ils se retrouvèrent tous dans la cabane qu'ils s'étaient construite. Là, comme ailleurs du reste, ils se croyaient au paradis. Dès cette première année, ils furent pris d'une sorte de désir de voir leur enthousiasme envahir la terre. Ils avaient déjà parcouru la marche d'Ancône et l'Ombrie deux par deux. Ils voulaient aller plus loin. À sept, ils descendirent vers le sud, par la route que François aurait dû prendre après Spolète s'il avait poursuivi son aventure guerrière.